Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Nous allons lire dans Jean chapitre 20, versets 21 et 22. Jean 20, 21, 22. Jésus dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Ah, je viens de rentrer de Toulouse où j'ai passé un moment vraiment délicieux avec un frère qui s'appelle Vincent et je vous dis bonjour frère Vincent. C'était vraiment très très bien, c'était vraiment un moment que j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus de bénir ces moments de méditation. Et je te prie que chacun et chacune puisse recevoir quelque chose qui vient de toi, au-delà des paroles que je peux dire. Merci Jésus. Amen. Alors, l'autre jour, je vous parlais du bonheur. Le vrai bonheur, mes frères et sœurs, il est sans raison. C'est normal d'être bien, de vivre, de respirer, de manger, de parler. Tout le monde fait ça. Mais le bonheur, c'est quelque chose qui vous accompagne. Il y a un texte qui me revient à l'esprit, c'est oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est dans les psaumes. Le bonheur, c'est quelque chose qui nous accompagne, quelque chose qui nous vient du ciel. Ça ne dépend pas vraiment de nous. Et puis ça ne dépend pas des circonstances dans lesquelles nous sommes. Le faux bonheur, c'est ce que les terriens cherchent. Mon petit-fils dirait, c'est ce que les moldus cherchent. Comprenne qui pourra. C'est quelque chose, pour eux, le bonheur, quelque chose qui est lié à une possession, l'argent. La maison, la voiture, avoir une femme, un mari, des enfants, voilà, tout ça, ben, c'est bien des amis. C'est vrai que tout ça c'est bien, ça donne des bonheurs. Mais leur bonheur dépend de ce qu'ils ont. Et voilà, et Jésus ne nous parle pas de cette sorte de bonheur-là, bien qu'il ne le méprise pas. Mais il faut aussi savoir que quand ça vient à nous manquer, ces choses, ces possessions. Eh bien, patatras, vous voyez, ben voilà, le bonheur. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun objet, d'aucune possession. Il vient d'en haut. Et puis, vous êtes étonné de le découvrir en vous-même. Hein, c'est vrai, ça paraît paradoxal. Il vient d'en haut, mais on le découvre en soi-même. Il est là. Et vous ne savez même pas pourquoi vous êtes réjoui. Dans le mot réjoui, il y a le mot joie. Hein. Bonheur, c'est un petit peu différent. Mais enfin, bon, je ne vais pas commencer à trop philosopher sur les mots. Vous savez que j'aime bien ça. Mais enfin, bon, on ne va pas exagérer non plus quand même. Le bonheur, finalement, c'est un état de conscience. Voilà le vrai bonheur. Mais tant que vous le placez dans des possessions, vous ne pouvez pas être heureux, c'est certain. Vous ne pouvez pas goûter cette joie qui vient de Dieu. Vous pouvez goûter, oui, des joies, c'est certes des bonheurs, mais ça dure un moment. Parce que la vérité, c'est que le bonheur qui ne vient pas d'en haut n'est qu'un bonheur instable, si vous voulez. Le bonheur, c'est comme l'air que nous respirons. On ne va pas s'acheter 1 kilo ou 2 kilos d'air. Non, il est là, on est dedans, il vient en nous, on est plongé dedans, on est en lui, il vient en nous. On le respire, et même sans y penser, même en dormant. Tout le reste, pensez-y, tout le reste, l'eau, la nourriture, l'argent, tout, on doit aller le chercher. Vous voyez? Mais l'air, il est tout le temps là. Souvenez-vous, Jésus souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est entré en eux parce qu'il souffla sur eux? Oui et non. Parce que Jésus souffla, mais eux devaient aussi recevoir, accueillir, intégrer le Saint-Esprit en eux. Voyez, quand vous respirez, c'est le souffle. Si vous croyez cela, vous le recevez. Si vous ne recevez pas le souffle de vie en respirant, vous recevez juste de l'air comme tout le monde. Sans air, vous ne pouvez pas vivre, moi non plus. Et de même, sans le souffle de Dieu, on ne peut pas avoir une vie spirituelle. On peut connaître intellectuellement des choses spirituelles et on peut en parler, blablabla, dans les salons, et ça fait très chic, c'est des mots, mais il n'y a pas de vie dedans. Parce que il faut le souffle de Dieu. Croyez que Jésus est là et que vous êtes en lui, comme vous êtes dans l'air qui vous entoure, et prenez conscience que quand vous respirez, c'est son souffle qui entre en vous. Ah, vous n'allez plus respirer comme monsieur et madame tout le monde, hein, maintenant. Vous allez avoir des moments de conscience, avoir conscience de cela. Hein, quand il est dit, Dieu, il a fabriqué Adam, il a soufflé un esprit en lui. Et puis quand on meurt, on rend son dernier souffle. Le souffle, c'est la vie. Ça change tout de prendre conscience. C'est la respiration de l'esprit, inspirer, expirer. Ça. Vous n'avez pas à aller chercher cela quelque part. Vous êtes dedans, tout le temps. Même quand vous dormez, comme je disais tout à l'heure, ben vous continuez à respirer. Dieu a fait ça comme ça. Et c'est très bien. Et c'est pour prouver aussi aux humains, aux terriens, aux moldus, que rien ne vaut ce qui est subtil, impalpable et invisible. Alors ne doutez pas. Pendant que les incrédules et les moqueurs respirent de l'air, vous respirez l'haleine de Dieu, le souffle divin. Croyez-le. Ça vous coûte quoi de croire ça? Croyez-le. Si un incrédule m'écoute en ce moment, Il va me tourner en ridicule et je vais encore recevoir un courrier incendiaire. Mais c'est pas grave. Un jour ou l'autre, il va se rendre compte que il va rendre son dernier souffle et puis là, il sera mort et puis il rigolera moins. Voyez-vous, il faut retenir ça. Vous ne serez jamais dans le bonheur en vous laissant conduire par votre âme. Ceux qui se laissent conduire par leur âme s'imaginent que le monde entier doit tourner autour d'eux, que tous doivent s'incliner devant eux et les servir. Mais personne ne dit ça. Mais en réalité, c'est bien ça. Hein? Comme s'ils étaient les princes et les princesses qui ont le pouvoir de donner le bonheur aux autres. Mais... Eh bien, je vous le dis, mes frères et sœurs, ils se préparent une existence de déception. Vous savez, l'enseignement de Jésus, quand il est écouté, quand il est cru, et surtout quand il est mis en pratique, ça met chacun à sa place. Cet enseignement, il fera descendre tous ces gens qui ont pris des places qui n'étaient pas les leurs. Ils seront d'abord ébranlés. Et puis, ces vérités vont les ébranler. Ils ne voudront plus entendre parler de ça et ils continueront à pécher en eau trouble, orgueilleusement. Mais tôt ou tard, ça sera comme ça parce que Dieu l'a décidé. C'est comme ça. Vous savez, tout chemin qui monte est aussi un chemin qui descend, c'est le même. Jésus nous dit qu'à la fin, tout sera remué, tout sera ébranlé. C'est par la parole, par l'enseignement de Jésus que tout est ébranlé, tout est secoué comme ça. nous ici, envoyés de Dieu, nous ne sommes pas pour rien dans tout ce qui est en train de se passer. Nous sommes en train d'ébranler les éléments avec l'enseignement de Jésus que nous répandons partout. Jésus dit dans Matthieu 24, je crois, que l'évangile sera prêché à toutes les nations avant la fin. Et ça remue, ça ébranle et on voit de plus en plus de gens qui se mettent à changer de vie. Et puis les autres, eh bien, ça devient grave pour eux. Parce que son enseignement est lumière. C'est une lumière qui est merveilleuse, mais qui peut être formidable, terrible. Le mot terrible dans le sens vrai du mot. Autrefois, le mot terrible, on ne l'employait que pour les tremblements de terre ou pour les éruptions volcaniques. On ne disait pas « Waouh, cette voiture, elle est terrible ». Non, 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 non. Maintenant, on a changé le vocabulaire, mais le mot « terrible ». La lumière de Dieu, pour les uns, c'est une douce chaleur, et pour d'autres, ça va être terrible, quand ils vont enfin prendre conscience. L'âme, votre âme, mon âme, fait des promesses. Ne comptez pas trop sur les promesses de votre âme. Ou pire, sur les promesses faites par l'âme des autres. Alors bien sûr, on peut y croire. Et puis, des fois ça fonctionne. Hein. Des fois les gens sont de parole et ils font ce qu'ils disent. Et des fois non. Ou alors ils le font un temps, puis après c'est ploup. On retire la planche et patatras, on est par terre. Malheur à l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Vous voyez, l'âme, votre âme, et les âmes des autres, sont les as pour vous faire des numéros de prestidigitation. Et les âmes peuvent vous emmener loin, dans la beauté, dans la musique, la poésie. L'âme, c'est des charmeuses, hein, les âmes. Mais leur but, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le but de l'âme? Et bien, c'est de vous bouffer, c'est de vous manger, c'est de vous épuiser. Parce que l'âme ne veut pas être dirigée par votre esprit. Elle veut occuper toute la place. Dans le domaine de l'esprit, il y a aussi des beautés, de la musique, des parfums même. Moi, il m'est arrivé d'entendre, la première fois que ça m'est arrivé, c'était dans un bus VV. On rentrait de Paris pour aller à Hardricourt dans notre centre de réhabilitation Teen Challenge. J'étais là dans le bus, bien éveillé, avec tout le monde. Ça devait être à peu près minuit et demi, 1h du matin. Et bien éveillé, on avait une réunion d'évangélisation formidable. Et tout à coup, j'ai entendu un orchestre. Mais ce n'était pas la radio, il n'y avait que moi qui l'entendais. Un orchestre extraordinaire. Il y a de la musique, il y a des parfums aussi. Mais là, c'est différent. Cette beauté, cette musique, ces parfums, toutes ces belles choses de l'esprit, c'est différent. C'est pas pour vous ligoter, c'est pas pour vous emberlificoter, c'est pour vous libérer, pour vous ressusciter, pour vous embellir. Afin que vous puissiez libérer, ressusciter et embellir les autres. La vraie question, c'est quel est le but? Tant qu'on ne sait pas quel est le but, on ne peut pas se prononcer. Quel est le but? Regardez quand un jeune homme offre un cadeau à une jeune fille. Est-ce qu'elle sait pourquoi il le fait? En apparence, c'est génial, c'est super. Ah, il m'aime, il m'a... Mais quel est le but? Le but, c'est quoi? Très souvent, c'est pour mieux abuser d'elle. Hein. Je veux dire, je suis pessimiste, mais enfin, quand même. C'est quand même vrai. On vit dans un drôle de monde. Hein. Le monde entier a pris l'habitude de réclamer, d'exiger, de demander. Et tous s'imaginent que les autres, à commencer par le Seigneur Jésus, sont obligés de satisfaire leurs désirs et leur caprices. Mais Jésus n'est pas obligé de le faire. Personne n'est obligé de le faire. Alors comme ça n'arrive pas, alors ils sont furieux et ils sont mécontents. Moi, je connais déjà un frère qui me dit toujours, J'aime beaucoup donner, c'est vrai, il est très généreux. Il dit, mais j'aime pas qu'on me demande. Parce qu'il a l'impression que quand on lui demande, il a l'impression qu'on lui prend. Et il aime pas ça. Mais il est très généreux. Mais voilà. Ah. Dieu lui dit, demandez, vous recevrez. Donc on peut demander. Il donne pas toujours, mais on a le droit de demander. Mais il n'est pas obligé de donner ce qu'on demande. Des fois, il dit, il donne pas et c'est pour notre bien. S'il nous donnait tout ce qu'on lui demande, ça, des fois, ça pourrait, c'est peut-être, ça nous ferait du mal, finalement. En fait, les gens donc sont furieux, sont mécontents, et ça, c'est un indice qu'ils sont conduits par leur âme et non pas par leur esprit. Quand ils demandent et qu'ils ne reçoivent pas, ils ne sont pas contents. Oui, s'il y avait un Dieu, comment ça se fait qu'il y a ci, il y a ça. Oui, puis telle et telle personne, elle ne m'a pas aidé, l'air. Attends, qui te dit que cette personne a les moyens de t'aider juste à ce moment-là? Il faudrait aussi... Non, on exige, on veut, on réclame. C'est le propre de l'âme, ça. Réclamer, exiger, sans jamais se demander si les autres peuvent vraiment donner ce qu'ils réclament. Vous savez, pouvoir se mettre à la place des autres, c'est une qualité très rare. Et de plus en plus, c'est une qualité rare de nos jours. L'Église de Jésus-Christ rétablit la communauté de vie. C'est justement cela, c'est une école. La vie communautaire, c'est une école sainte où on se développe une... Bon, là, je ne sais pas si ça existe ce mot. Une impersonnalité. Ça ne veut pas dire qu'on perd notre personnalité, mais on la gère. C'est-à-dire c'est une école où on prend l'habitude de ne rien attendre et de faire soi-même le premier pas vers l'autre. Parce que c'est quand on fait comme ça qu'on devient grand et fort. Je fais toujours cette comparaison entre la Suisse et la France, et tant pis si vous êtes français et puis que vous ne m'aimez plus après, mais quand même, c'est un peuple assisté. C'est vrai que vos ancêtres ont fait tellement de choses extraordinaires pour pouvoir avoir tant de droits, et maintenant, vous pensez que c'est des acquis, et puis que voilà, puis alors toujours en train de râler, de gueuler, tout ça, c'est connu hein, dans le monde entier, on sait, les Français, c'est des râleurs. Mais c'est aussi des assistés, c'est terrible. En Suisse, on n'est pas comme ça. C'est dans nos gènes. C'est l'éducation, c'est la façon de... Comment sont nos autorités, nos professeurs, nos pasteurs, ceux qui nous dirigent dans l'État, dans les hautes sphères de l'État. Et puis ça, c'est depuis des générations. Et c'est une mentalité différente. Si on attend, eh bien on attendra éternellement. Pourquoi ? Parce que les autres sont occupés par leurs propres problèmes. L'être humain, l'âme, l'être, ça veut dire c'est l'âme, hein, il est égoïste. L'âme, elle est avare. Alors, analysez-vous et demandez-vous si vous n'êtes pas comme ça vous-même. Hein, moi je me pose la question, est-ce que je ne suis pas un avare, il faut se poser des questions. Je crois que notre Père Céleste trouve que ces enfants du 21e siècle sont des sales gamins mal élevés. Eh oui. Toujours je lisais une blague, c'était un instituteur qui disait à une maman d'élève, non, votre enfant n'est pas hyperactif, il est simplement mal élevé. C'est vrai, mal élevé. Je crois que dans l'Église d'aujourd'hui, les leaders sont presque injoignables, ils ont l'air si sérieux, si graves, si impassibles, si économes de leur sourire. Et les chrétiens sont comme des gamins livrés à eux-mêmes, en fait, parce que les leaders, leurs parents spirituels, les prêtres, les pasteurs, sont trop loin d'eux, trop loin. Il n'y a pas véritablement une éducation qui passe, c'est une information, il y a un enseignement pas trop pratique. Je crois même que les anges gardiens des chrétiens sont fatigués en ce moment. Je vous le dis, hein. Les anges gardiens attendent que les pasteurs soient plus près de leurs fidèles. Et les anges gardiens attendent que les fidèles prennent plus de responsabilités. Vous savez, les anges vous observent. Je dis pas ça pour mes frères et sœurs de la communauté qui est ici dans le sud-ouest, pas du tout. Je les connais, ils me connaissent, je sais comment ça marche et eux ils savent comment ça marche et ça marche très bien. Mais je vous assure qu'un de ces jours, Dieu va ordonner aux anges d'arrêter de vous servir. Ils vont fermer le ciel. Franchement, c'est à cause de leur égoïsme, de leur étroitesse de cœur, que le bonheur et l'inspiration ne visitent pas souvent les croyants. Je lisais dernièrement une prophétie donnée par une sœur, je ne veux même pas vous dire son nom, mais, relayée par, sur Facebook par une femme, une femme très intellectuelle. Mais c'était une banalité, cette prophétie. Une prophétie qui disait rien. Juste des choses qu'on peut trouver en ouvrant la Bible. Frères et sœurs, ce ne sont pas des prophéties, cela. Ces pauvres chrétiens se traînent sur la terre, ils sont tristes, ils sont malheureux parce qu'ils ne savent pas s'ouvrir et faire jaillir de leur esprit quelque chose de bon pour la création. C'est pourquoi Dieu dit d'abord « j'en veux aux pasteurs ». D'abord il dit « le jugement commencera par ma maison » puis ensuite les pasteurs, j'en veux. Je leur en veux parce que avec leurs grosses pattes sales, ils marchent là où les brebis viennent boire. Ils souillent tout. « Oh Michel, dis donc, t'es énervé, quelle mouche t'a piqué ?» Mais non, je dis ça, mais j'espère que ça va faire du bien à quelqu'un. Prendre conscience. Ces pauvres chrétiens, ils sont toujours en train de chercher pour eux-mêmes. Pour leur salut, pour leur guérison, pour leur bonheur. Mais arrêtez, s'il vous plaît, de grâce, arrêtez. Jésus vous a déjà sauvé, il vous a déjà guéri, et vous avez du bonheur à respirer. Vous avez son souffle. Mais vous en faites quoi de tout ça? Combien de chrétiens ont... J'ai même entendu dernièrement un pasteur me dire que son frère pasteur est mort, il ne voulait même plus la Bible. Il doutait de son salut. Mais comment on peut arriver à un truc pareil quand on a connu le Seigneur Jésus-Christ? Mais il faut se ressaisir. Il faut devenir plus simple, comme un enfant qui croit simplement. Voilà, Jésus est là, il est avec moi. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Quand je respire, c'est lui qui souffle sur moi. Il vous a déjà sauvé. Il y a 2000 ans que ça fait. Il vous a pardonné il y a 2000 ans. Les chrétiens qui demandent sans arrêt pardon casse les pieds de Dieu. Je vais vous dire, il y a une chanson qui me faisait rire il y a quelques années, c'est je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le bonhomme, il chantait. Et puis je coupe le son, et je remets le son, j'adore. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette chanson. Mais des fois, je crois que Dieu, il coupe le son, parce qu'il doit en avoir marre d'entendre ces chrétiens pardonnés par lui, il y a 2000 ans, au prix du sang de son fils sur la croix, toujours en train de demander pardon. Mais pourquoi demander pardon alors qu'il l'a déjà pardonné? Et la même chose pour la guérison. Je me rappelle, j'avais une vieille sœur qui s'appelait Hilda Baumann, dans l'église de Pentecôte, en Suisse, là où j'allais, tout au début de ma conversion. Alors elle disait, mais il faut prendre la victoire. Elle avait raison, il faut la prendre. Comme je disais tout à l'heure, Jésus a soufflé, mais c'est pas parce qu'il a soufflé sur eux qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Oui, ils l'ont reçu, oui et non. Mais il fallait aussi qu'ils l'intègrent, qu'ils l'acceptent, qu'ils prennent ce souffle sur eux, qu'ils y croient. Et puis qu'ils agissent en conséquence. Alors tournez-vous vers les autres pour leur donner ce que vous avez. C'est quand on donne ce qu'on a
aux autres qu'on en reçoit l'avantage.
Eh oui, c'est la loi de la semence. Ah, les pentecôtistes pensent que la loi de la semence, ça marche avec l'argent. Oui, ça marche avec l'argent. Celui qui sème, il récolte ce qu'il a semé. On récolte toujours ce qu'on sème. Et vous avez jamais vu un paysan semer du blé avec l'espoir de récolter des bananes? On récolte toujours selon la nature de ce que l'on a semé. Donc si vous semez de l'argent, vous allez récolter de l'argent. Ils n'ont pas tort, c'est juste. C'est juste. Et vous allez en récolter davantage. Certains disent, mais j'ai pas besoin de plus. Aïe, 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 ça c'est l'âme qui parle. On a toujours besoin d'avoir plus pour pouvoir donner davantage. C'est comme ça que l'esprit parle. C'est pourquoi tu dois être riche. Alors pour pouvoir être riche, il faut commencer à semer ce que tu as. Oh, mais j'ai presque rien. On a toujours un petit sou. Toujours un petit sou à donner. Alors, mais ça ne marche pas que pour les sous, ça marche pour tout. Pour tout. Tu récolteras selon la nature de la semence que tu as semée. Mais tu ne récolteras rien si tu ne sèmes pas. Je me rappelle d'Osborne. Il se moquait un peu, il disait « Oh, les chrétiens sont extraordinaires, ils prient tout le temps. Ils ont une réunion, je limite un peu là, hein. Ils ont une réunion le jeudi soir, et ils sont comme des paysans qui sont là avec un sac de grains de blé, ils sont autour du sac et ils disent « Oh Seigneur, nous te prions que nous puissions avoir une bonne récolte. » Que cette année, vraiment, tu nous sois favorable et que nous ayons une récolte abondante. » Et tous prient les uns après les autres, n'est-ce pas, pour ce sac de semences. Et après, eh bien, ils se serrent la main, ils s'embrassent fraternellement et puis ils rentrent chez eux en disant « Nous reviendrons jeudi pour prier encore pour le sac de grains que nous avons là. » Il dit « C'est stupide. » C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut prendre les grains et les semer. Il faut donner. Donne et tu recevras. Alors, quoi que ce soit, tu peux pas dire que tu n'as rien. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Mais ce qu'il faut, c'est que tu donnes ce que tu as. Même si c'est peu de choses. Même si c'est une petite pièce. La petite veuve, là, Jésus dit qu'elle a donné plus que le riche parce que c'était tout ce qu'elle avait. Tu vois, quelque chose à donner, si tu donnes, alors tu vas commencer à rentrer dans l'esprit, c'est-à-dire le souffle, tu respires, expires, c'est-à-dire tu prends, tu donnes, tu prends, tu donnes. C'est comme ça, c'est la vie, tout marche comme ça. Si vous ne faites pas, si vous ne le faites pas, Dieu va couper les vivres. Oh Seigneur, ça va être terrible. Le jour où les chrétiens arrêteront de chercher leur ceci et leur cela, les machins et tout ça, et qu'ils se tourneront vers les autres pour leur donner ce qu'ils ont déjà, alors le royaume de Dieu s'installera sur terre. Mais je vous le dis, on en est loin, mes pauvres enfants, on en est loin. Il faut apprendre à s'oublier un peu. Et comment cela? Eh bien, en respirant le souffle, l'Esprit de Dieu, en ayant conscience que nous avons été plongés dans l'Esprit de Dieu, immergés dans son Esprit, immergés en lui. Il est en nous, nous sommes en lui. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Vous avez tout pleinement en lui. Ce qu'il faut, c'est le manifester, le donner aux autres. Et quand tu le donnes aux autres, tu le récoltes. Un grain va en donner 30, un autre va en donner 60, un autre va en donner 100. Mais plus tu sèmes, plus tu as de chances de récolter. Eh oui. Des gens disent, Michel, comment ça se fait que tu as tant de guérison dans ton ministère? Mais parce que je sème cela. Quand je vois des bons pasteurs prêcher dans les églises, alors ils prêchent comme ça, voilà, sur la sanctification ou le retour de Jésus, tout, puis après ils disent « Amen, maintenant nous allons prier pour les malades ». Ils prient pour les malades, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont semé aucune parole, miracle, de guérison dans le cœur des auditeurs. Pour avoir des guérisons, il faut semer la parole de Dieu vivante de guérison. Fortifier la foi des gens en mettant cette parole incorruptible en eux, afin que elle puisse germer, elle peut germer très rapidement, et on appelle ça un miracle, ou elle peut germer comme une guérison, et ça peut prendre quelque temps. Mais il faut semer cette parole de guérison. Et les pasteurs ont peur de faire ça, parce qu'ils ont peur des échecs. Je n'ai pas peur des échecs. Quel échec ? Je parlais avec Vincent tout à l'heure, et je lui disais, mais quel échec ? C'est une prière qui n'est pas exaucée pour un malade, mais attends. Non, je lui disais, attendez, parce qu'on se vouvoie encore. Je pense que ça va changer, parce qu'on va devenir vraiment amis, et on va pouvoir changer ça. Mais je lui disais, mais il y a des tas de malades qui glorifient plus Dieu au sein de leur maladie que de chrétiens en bonne santé qui ne glorifient pas Dieu avec leur comportement. Alors, où est l'échec? Vous voyez, il faut être spirituel, il faut avoir cette pensée comme Jésus pense. Jésus, de son temps, n'a pas guéri tout le monde. Regardez cet homme à la porte du temple. Combien de fois Jésus est entré dans ce temple? Il était là tous les matins, tous les jours, les gens, sa famille venait le poser là. Il a passé combien de fois devant? Il n'a rien fait. Et puis c'est Pierre qui a passé avec Jean, je crois. Ils ont dit, ce que nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il était guéri. Là. Mais pendant des années, Jésus a passé à côté de lui, il n'a rien fait. Et alors, est-ce que cet homme a été furieux? Non. Il faut arrêter de toujours réclamer, toujours demander. Il faut donner ce que vous avez, donnez-le. Donnez et vous recevrez. C'est pas Jésus qui dit ça? Bien sûr que c'est Jésus. Il faut apprendre à s'oublier un peu. Alors comment on fait? En respirant l'Esprit de Dieu, en ayant conscience qu'il est là avec nous. Il est là avec nous pour nous apprendre à vivre comme lui, il a vécu sur cette terre, pour faire les mêmes choses que lui, et il a même dit des plus grandes encore. J'aime bien Frère Osborne, un jour il a posé la question, et il a dit dans un auditoire, devant un auditoire de 5000 personnes, j'étais là, il a dit, qui peut me dire ce que Jésus, la première chose que Jésus a faite en arrivant au ciel? Et personne n'a su répondre, et il a ri, et il a dit, la première chose qu'il a faite en arrivant au ciel, il s'est assis, c'est écrit, il s'est assis, et maintenant il est assis et il regarde, si depuis son ciel il nous regarde pour voir si nous faisons les choses qu'il a dit que nous devons faire. Commencez à penser juste, selon les Écritures. N'encombrez pas votre esprit avec des légendes, avec des fables. Les Écritures. Croyez ce que Jésus dit de ceux qu'il a déjà rachetés. C'est-à-dire vous. Et vivez en conséquence. Vivez. C'est-à-dire respirez, prenez, et expirez, donnez. S'il n'y a pas ça, c'est la mort spirituelle. C'est pourquoi on voit tant de chrétiens malheureux, tourmentés, ils se sentent damnés, il y a même des pasteurs qui se suscitent de tristesse. J'ai assisté à une pastorale où on a appris le suicide d'un frère, d'un pasteur. Une autre pastorale où un pasteur s'est levé et a prophétisé en disant, mon enfant, ne mets pas fin à tes jours. On était entre pasteurs. Je t'aime, je vais te soutenir, je vais t'aider, parle à tes frères. Il y a une grande désespérance dans le milieu chrétien, parce que il n'y a pas la conscience de la présence de Dieu continuelle avec nous. Je vous le dis souvent, Dieu est avec nous, mais nous on n'est pas forcément avec lui, c'est ça le problème. Il faut se rendre conscient de sa présence avec nous. Jésus est venu pour sauver votre âme. Il n'est pas venu pour que votre âme sauvée vous inspire. C'est ça qu'il faut comprendre. Il est venu pour sauver votre âme, pour qu'elle puisse se soumettre au souffle, à l'esprit. Quoi que vous fassiez, votre âme, elle ne s'améliorera pas. Chasse le naturel, il revient au galop. C'est pas dans la Bible, mais ça pourrait y être. C'est à votre esprit de prendre l'âme sous contrôle et de la soumettre Paul parle aussi de son propre corps, il dit je le soumets à, je lui fais la vie dure, en d'autres termes. Notre âme sauvée n'est pas une âme différente d'avant, c'est des fables ça. Quelqu'un qui vient me dire, j'ai donné ma vie à Jésus et ma vie était complètement changée. Non, c'est pas vrai, c'est faux, c'est pas vrai. Tu as été mis en relation avec Jésus et son esprit avec ton esprit éduque ton âme, ce qui fait que tu as une nouvelle vie. Mais laisse un petit peu ton âme reprendre le dessus, tu vas voir comment elle va faire. Elle affole comme avant. C'est pas ta vie qui a complètement changé, c'est la vie de Jésus qui est venue dans ta vie et qui veut prendre le contrôle par le moyen de ton esprit, pas de ton âme, pas de l'être que tu es, qui a été fabriqué, qui a été créé. Ton âme, elle est folle, comme je dis toujours, elle est folle. Elle ne restera pas sauvée, elle n'entrera pas dans le paradis de Dieu si ton esprit ne la contrôle pas et ne l'éduque pas. Voilà, c'est dit. Je vais revenir là-dessus dans d'autres prédications. C'est pourquoi il est dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, avec crainte et tremblement. » La vie chrétienne, ce n'est pas la vie d'une âme sauvée. Non, c'est la vie de votre esprit qui discipline votre âme, qui discipline votre être. Voilà ce que c'est la vie chrétienne. Bon, j'arrête parce que là, je vois que je suis bavard, j'ai parlé trop longtemps. Pardonnez-moi. Seigneur Jésus, je te prie pour que déjà ça rentre dans le cœur de mes frères et sœurs et puis que nous puissions aller plus loin afin de pouvoir faire des progrès avant ton retour qui est proche et que nous puissions nous présenter devant toi sans tache ni ride et que nous soyons vraiment, vraiment à ta gloire. Merci Jésus. Amen. Amen. Dieu vous garde. Au revoir.